Oh, quel plaisir, quel bonheur! C'est comme de l'huile qui parfume la tête et descend, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Là, le Seigneur donne sa bénédiction. Ce psaume, le psaume 133, nous parle de plaisir et de bonheur, d'une huile parfumée, d'une rosée rafraîchissante, par la seule grâce d'être avec des frères et des sœurs. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu es notre Père, donne-nous la grâce de la fraternité. Ouvre nos yeux sur nos voisins qui partagent avec nous ce temps de rencontre. Apprends-nous à les considérer comme un don précieux que tu nous offres. Que ton esprit coule sur nous comme une huile parfumée, que ta parole nous rafraîchisse comme une rosée, que ta bénédiction repose sur notre assemblée. Amen. Nous voici rassemblés en ton nom. Nous louons Dieu avec le psaume 112. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste, il ne craint pas l'annonce du malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Et nous chantons le psaume 24, les deux premières strophes du psaume 24, que vous trouverez à la page 50 du livre Alléluia. La terre. Prenez place. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de culte. Et avant tout, nous plaçons sous le regard de Dieu nos vies. Une ville qui est située sur la montagne ne peut se cacher. Seigneur, trop souvent, nous avons caché devant nos frères et sœurs, les humains, ce qui est l'exigence de notre foi. Par peur de n'être pas compris, nous avons préféré nous taire. Calcul d'orgueil, infidélité à la puissance divine de vie qui est en nous. Donne-nous, Seigneur, la force de ta grâce en même temps que ton pardon. Que votre lumière brille devant les humains. Partage ta lumière. Nous sommes si tentés de rester repliés sur nous-mêmes, de nous réchauffer dans le bien-être d'un groupe affectueux de réflexion, de recherche ou de prière. Assurez que la flamme allumée ne risque pas de s'éteindre au grand vent de ce qui traverse le monde. Donne-nous, Seigneur, la confiance en toi. Ce vent est aussi celui de ton esprit qui attire ce monde au feu de ta vérité. Pardonne-nous de n'être qu'une flamme vacillante. Si le sel se dénature, il n'est plus bon à rien. Tant de fois, nous avons préféré notre point de vue humain, nos désirs, nos passions. Nous avons dénaturé ta parole pour l'adapter à nos prétendues limites. Elle devient inaudible. Elle n'est plus puissance de Dieu, elle devient faiblesse des hommes. Pardonne-nous cette faiblesse qui ne veut pas s'appuyer sur ta force. Mais relève-nous, Seigneur. Donne-nous de donner de la saveur à ta vie. Donne-nous de refléter ta lumière dans le monde. Amen. Nous restons assis pour chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant nous envoie son Esprit pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Amen. Tu consoles, tu pardonnes, je vous invite à vous lever. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui aura tué sera jugé par le tribunal. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera jugé par le tribunal. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque jette sur une femme un regard de convoitise a déjà avec elle commis l'adultère dans son cœur. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Transmet la nouvelle. Thank you. Prenez place. Parmi les lectures proposées pour ce jour, j'en ai retenu deux. La première se situera dans la première épître de Paul aux chrétiens de Corinthe, chapitre 2, et la seconde dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Avant de poursuivre notre lecture de la Bible, nous avons commencé avec les psaumes, je vous invite à la prière. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on partage un présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Amen. Christine. Ah, tu es là. Non, faut que tu viennes là.
Oui, non, je vais faire.
D'accord.
Je vais lui citer en ordre.
Alors, lecture, donc 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette alors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
Place. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents et qui s'en souviennent, nous avions entendu l'apôtre Paul affirmer que ses lecteurs n'avaient pas de quoi se vanter, que ce soit de leur statut social, de leur puissance ou de leur sagesse. Et il terminait par cette phrase surprenante, « Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. » Paul va ensuite illustrer son propos en parlant de son propre cas. Et c'est l'extrait de l'épître que nous venons d'entendre. « Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. » C'est une pratique courante et, disons-le, prudente. Lorsqu'on adresse une critique à d'autres, d'affirmer qu'on n'est pas soi-même à l'abri de tout reproche. Et nous pouvons constater, remarquer que les affirmations se répondent terme à terme. Prestige, répond à le peu de noble, sagesse fait écho à peu de sage, dans la faiblesse à peu de puissant. Voilà, Paul se met au même niveau que ses interlocuteurs. On pourrait penser que Paul, du coup, relativise les reproches qui précèdent, qu'il passe un peu de pommade sur les plaies provoquées par ses vitupérations. Il n'en est rien. Il n'en est absolument rien, ce n'est pas le genre. Paul, au contraire, poursuit ses reproches. En quelque sorte, il fait entendre à ses frères et sœurs corinthiens que leur volonté de masquer leur faiblesse derrière une puissance simulée crée la division évoquée dans la toute première partie de l'Épître que nous avons lue il y a 15 jours. Oui, cette histoire tourne au feuilleton, mais voilà. Tandis que lui, Paul, en acceptant cette faiblesse, en la revendiquant, mieux, en la choisissant, a créé la communauté et s'acharne à en restaurer l'unité. Ne nous leurrons pas. Paul, au contraire de ses lecteurs, aurait pu, lui, se parer de son prestige d'apôtre, de sa sagesse, de maître des Écritures. Il n'en fait rien, du moins c'est ce qu'il affirme. L'Évangile, la bonne nouvelle de et en Jésus-Christ, n'est pas une vérité qui renverse l'opposition, une sagesse qui emporte l'adhésion par son implacable évidence. Elle est une vérité que l'on ne peut recevoir que si l'on accepte l'inacceptable, l'inversion totale des valeurs. En effet, le salut universel destiné à tous les humains s'est incarné dans un individu appartenant à un peuple donné. Il a vécu dans une région bien délimitée. Il n'a rien gagné, il n'a rien conquis. Ses victoires et ses triomphes ont toujours été sans lendemain, et sa mort fut ignominieuse. La vérité absolue, la parole de Dieu est devenue chair dans un individu appartenant à un peuple vaincu et soumis, et qui a connu une mort d'esclave révolté. C'est pas facile à vendre comme concept, comme idée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas la vendre, mais la donner. Encore faut-il la donner de la bonne façon. Elle a très longtemps été donnée avec force et puissance. Des messieurs fort prestigieux, fort cultivés, fort puissants, vous expliquaient que vous deviez croire tout ça, et d'autres trucs encore, sous peine de souffrance dans la vie prochaine et quelquefois dans cette vie-ci. La révélation n'avait plus ce côté invraisemblable, elle ne venait plus à votre rencontre, elle s'imposait à vous comme une évidence. C'était forcément vrai, parce que cette doctrine vous avait été assénée sans réelle contestation possible. Alors il est probable qu'à l'évocation de ces messieurs fort prestigieux, fort cultivés et fort puissants, un protestant français les identifie aux évêques et autres cardinaux, fulminant du haut de leur chair. Mais l'honnêteté oblige à reconnaître que les autorités protestantes n'ont pas été toujours exemptes de ce défaut. La lecture de l'apôtre Paul nous rappelle qu'il n'en était pas ainsi au début. Notre situation actuelle nous rappelle quant à elle que ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'abord parce que ce n'est plus possible, mais je veux croire que ce n'est pas la seule raison, que si un jour, par je ne sais quel retournement de l'histoire, les églises se retrouvaient en position de force, elles renonceraient à en faire usage. Bref, je veux croire que la prédication de la faiblesse et de la liberté n'est pas juste une façon de faire contre mauvaise fortune bon cœur, que c'est une véritable conversion, et non une gymnastique intellectuelle qui, selon la citation de Jean Cocteau, l'Église se dirait « Puisque ces mystères me dépassent, feignons-en d'en être les organisateurs. » Bien sûr, il y a toujours des églises qui annoncent la grâce en jouant sur la peur de l'enfer. Je me souviens d'une paroissienne à mes débuts qui m'avait dit « Mais vous ne parlez jamais ni du diable ni de l'enfer. Alors comment voulez-vous que les gens se convertissent s'ils n'ont pas peur ?» Oui. Moi, j'aimerais que les gens se convertissent, évidemment. Mais je ne veux pas qu'ils aient peur. Et surtout, je ne veux pas qu'ils se convertissent par peur. Alors, je ne continue donc à ne pas parler ni du diable, ni de l'enfer. Bon, là, je viens de le faire, d'accord. Mais bon, ça compte pas, on est d'accord. Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus annoncer l'Évangile grâce à la force de l'évidence, ni aucune force d'ailleurs. Et ce n'est pas une perte, c'est une grâce. Oh, les églises ne l'ont pas toujours accueillie comme telle. Mais il n'y a pas d'annonce de l'Évangile sans faiblesse. Il n'y a pas non plus d'annonce de l'Évangile sans crainte. Mais la peur ne doit pas être l'argument. La peur ne doit pas être du côté de l'auditeur. La crainte doit se trouver dans le cœur de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous, écrit l'apôtre Paul. La crainte de ne pas annoncer correctement l'Évangile, la crainte d'annoncer autre chose, la crainte de s'annoncer soi-même. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée, du fond de ma mémoire, je vais vous la narrer. Un encadreur, il y a bien des années, se voit confier par un client un tableau de maître à encadrer. Lorsque le client revient, il est emballé. Quel cadre magnifique, il est vraiment superbe. Il fait part donc de son enthousiasme à l'encadreur dont le visage s'attriste. Il reprend le tableau et dit « Rendez-le moi, c'est raté, il faut que je recommence. » « Mais pourquoi je viens de vous dire que je le trouvais magnifique ?» Justement, c'est le tableau que vous auriez dû trouver magnifique, superbe. Le cadre, vous n'auriez pas dû le voir. Il ne devait pas attirer l'attention sur lui, mais mettre le tableau en valeur. Paul affirme avoir renoncé à toute sagesse, à tout brio, à tout esbrouf. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi il m'origénait ceux qui se réclamaient de lui. Ce n'est pas l'Évangile de Paul qu'il annonce, c'est celui de Jésus le crucifié. Il ne s'agit pas d'humiliation ou de macération, mais de s'effacer devant le message qu'on annonce, ce message qui nous dépasse. De même, lorsque dans l'Évangile de Matthieu, selon Matthieu, pardon, pas deux, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », c'est pour inviter ses disciples, donc nous, à ne perdre ni notre saveur, ni notre éclat. Certes, c'est l'interprétation classique, évidente, habituelle, et elle est très bien. Mais je vous invite à considérer les éléments sel et lumière. Quand dans un repas, on évoque le sel, c'est généralement pour se plaindre, ou du moins faire remarquer qu'il y en a trop ou pas assez. Le sel révèle le goût des aliments. Il le met en valeur. Ce n'est pas lui qui nourrit. On n'a pas vraiment envie d'avoir le sel comme goût dominant. De même, la lumière révèle la vérité. Trop peu et on ne voit rien. Trop, on est ébloui et on ne voit qu'elle. Le lien entre le sel, la lumière et mon histoire de cadre est assez facile à établir. Nous ne pouvons ni ne devons convaincre qui que ce soit. Nous ne pouvons qu'annoncer et nous ne devons annoncer que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Lorsque nous parlons de notre foi, et cela, nous devons le faire, faisons-le comme Paul, non en écrivant de longues épîtres, c'est pas ce que je dis, non, mais dans la faiblesse, craintif et tout tremblant. Nous devons être suffisamment courageux pour éclairer le message et le rendre savoureux. En revanche, n'essayons pas d'éblouir les autres, ni de trop saler de notre annonce, de notre présence, jusqu'à la rendre immangeable. J'aime rappeler que le doute fait partie intégrante de la foi, mais ce n'est pas cela dont il est question ici. La crainte et le tremblement dont parle l'apôtre n'est pas celui de l'élève qui n'a pas révisé ses leçons et qui n'est pas très sûr de ce qu'il raconte. La crainte et le tremblement ne concernent pas le fond du message, l'évangile de Jésus-Christ, l'amour de Dieu pour chaque être humain, la possibilité pour chacun, chacune de recevoir ici et maintenant la vie éternelle, celle qu'on nomme... Non, la crainte et le tremblement ne concernent que nous, notre capacité à l'annoncer honnêtement, avec son invraisemblance et les questions qu'elle soulève et auxquelles nous n'avons pas la capacité de répondre avec honnêteté. Notre seule crainte dans l'annonce de l'Évangile ne doit pas être celle du ridicule, le ridicule ne tue pas, ou de l'échec. Paul et Jésus lui-même ont parfois échoué, mais d'annoncer autre chose que Jésus-Christ, ce Messie crucifié, d'annoncer l'évangile de Vincent et non pas l'évangile de Jésus-Christ, probablement et inévitablement selon Vincent. Ça peut paraître évidemment impossible, mais ce ne l'est pas. Difficile, oui, ça c'est sûr. Mais n'est-ce pas cela la foi ? Avancer avec crainte et tremblement sur une voie difficile, comptant sur la présence de Dieu en Jésus-Christ et sur la puissance de l'Esprit de Dieu qui sera transformé nos essais. Amen. Mon sauveur, je voudrais être, cantique 46-05, page 718. 718.
Thank you.
Je vous invite à dire ensemble la confession de foi qui porte le numéro 3, donc dans le petit feuillet à la fin de votre cantique. Celle qui commence par « Dieu est amour ». Dieu est amour. Par amour, notre Père a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que l'amour naisse au cœur de l'humanité. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle, aujourd'hui comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisans de vérité et de pardon, parmi les hommes et les femmes, comme artisans de justice et de paix, dans le royaume qui vient, comme témoin de sa fidélité. Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen. Chaque jour de ma vie. Des places. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Alors, il y a une possibilité de faire son don, par carte bleue. Si vous souhaitez que ce soit le faire, faites signe à la personne qui a la corbeille. Merci Seigneur pour cette offrande que tu nous permets de faire. Accepte-la comme un signe de notre engagement à ton service. Je n'avais pas vu que tu n'avais pas terminé, excuse-moi.
Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin. Nous sommes dans une période de vacances, donc il y a peu d'activités paroissiales. Il y a la chorale mardi à 19h15, et puis le mercredi, la prière à 18h. Voilà, et puis sinon, vous pouvez admirer la belle œuvre d'art qui est dans le hall, cette œuvre d'art sera inaugurée pour le vernissage de l'expo photo qui commencera le 19 février.
Tu fais l'annonce d'Andréa ou...
Vas-y, non, je sais pas, comme tu veux. Vas-y.
Ouais, bon, voilà.
Andréa, vous faites savoir que le mardi... Oh, ben c'est 14 mars, on a le temps, on en fera plus tard.
On est un peu d'avance.
Voilà. J'ai écouté le 14 février, donc je me suis dit, il faut le faire, mais mars. Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Dieu des hommes et des femmes libres, nous engageons nos cœurs et nos vies pour la cause de toute l'humanité libre. Notre terre n'est qu'une petite étoile dans l'univers, mais si nous le voulons, nous pouvons en faire un lieu qui ne soit pas torturé par la guerre, qui ne soit pas tourmenté par la faim ou la peur, qui ne soit pas divisé par les distinctions insensées de race, de couleur ou d'idéologie. Donne-nous l'intelligence et le cœur pour purifier le monde de l'oppression et pour détruire cette vieille doctrine selon laquelle le plus fort peut dévorer le plus faible pour la seule raison qu'il est le plus fort. Mais surtout, donne-nous la fraternité, une fraternité qui ne soit pas faite de mots, mais d'actes et d'œuvres. Si nos frères et sœurs sont opprimés, nous aussi nous sommes opprimés. S'ils ont faim, nous avons faim. Si leur liberté est détruite, notre liberté n'est pas sûre. Accorde-nous la foi commune qu'il sera possible pour toute l'humanité, pour l'humanité de connaître la justice et l'équité, la liberté et la sécurité. Tout cela, nous te le demandons dans le nom de ton Fils, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jean Chrysostome a dit, « Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension. Nous avons médité les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir, vivre ce que nous avons compris de l'Évangile. Je vous invite à vous lever. Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pour t'aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction.
Bon dimanche à tous, et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et évitez de vous casser quoi que ce soit.
Comment on éteint le... Pardon, excuse-moi, Gérard, je t'interromps. Je ne sais pas l'éteindre.
Oui, éteindre quoi ?
Tu sais, le micro de...
Là.
Hop là, hop là, hop là, hop là.